va maintenant passer à trois contributions d'historiens. Donc c'est Marine Schütz qui va prendre la parole. Donc c'est peut-être pas toujours évident de, sans transition, de voilà après tout ce mouvement, de revenir à une communication plus classique. Marine Schütz est historienne de l'art. Elle a travaillé sur le pop art. Mais là, donc aujourd'hui, elle va nous parler de Robert Malaval, donc qui est un peintre. Voilà. On va poursuivre donc cette exploration de l'art visuel, et sa communication s'intitule Homologie et synesthésie dans la peinture de Robert Malaval, 1976-1980, contribution à une archéologie de la culture visuelle punk.
Merci beaucoup. Alors, un grand merci d'abord à Luc et à Solveig, et également à l'équipe de la Philharmonie. Et je pense que, contre mon gré, il y a une transition avec Tapman, puisqu'on va voir qu'il y a peut-être une archéologie du punk qui se ferait à travers la matérialité pailletée. Adoptant un point de vue sur le punk qui examine simultanément son ancrage dans la culture et la société française de la fin des années 70 et la possibilité de son décentrement de la musique vers le visuel, cette communication se propose de retracer le rôle de la musique dans la formation du projet de Robert Malaval. Au sujet d'une série de toiles commencée en 1976, dont le sens réside dans l'expression de la révolte, artistique d'abord et sociale ensuite, Jean-François Bizot, ami du peintre niçois Robert Malaval, né en 1937 et mort en 1980, écrit « Quand Kamikaze, fin du monde, voit le jour, les Sex Pistols hurlent que le futur est mort. Robert entre dans sa période punk. Il fréquente les premiers punks français, Elodie Lawton et Jacques No. Il joue du piano à quatre mains avec son assistant qui vient de fonder le groupe Stress. Cuir noir et lunettes noires. » Fin de citation. Le contact avec de Malaval avec les punks conforte chez l'artiste l'expression de valeurs antisociales et génère la production d'un discours dans lequel le rock semble déterminant. En 1979, Robert Malaval déclare « J'écoute souvent du rock. C'est une forme de musique dont l'importance n'est pas sa qualité musicale, mais l'expression dont elle est le médium, la révolte intérieure, la non-acceptation. J'ai même vécu avec des musiciens et je suis avec passion le bouillonnement de la scène rock aujourd'hui en France. Comme le rock, ma peinture refuse le conformisme et mes théories, tout comme l'académisme, d'une avant-garde moribonde de pseudo-recherches compassées. » Fin de citation. Or, de tels propos qui révèle l'usage du terme rock et non pas du punk, ne doivent pas conduire en fait à une opposition. Bien plus, il s'agirait d'une généalogie qui insère le punk dans le rock, et précisément cette généalogie occupe une fonction stratégique dans l'œuvre de Robert Malaval. Alors sa peinture en effet se compose de différents cycles, abordant une à une les sous-cultures rock, et elle peut se lire en cela comme le double pictural, plus ou moins synchrone, de la musique. Alors par exemple, de 61 à 67, Malaval écoute du rock américain, et de 61 à 67, il réalise, plus ou moins en lien avec l'Aliment Blanc, donc cette série, une série de sculptures. De 1967 à 1969, l'artiste est alors captivé par l'écoute du psychédélique. Il y a également, et j'y reviendrai, la correspondance entre Poussière d'étoiles et le glam de Bowie. Il y a encore, entre 71 et 73, la série Été pourri, peinture fraîche, qui correspond au Rock 50s de nouveau et aux Rolling Stones. Et comme je vous l'ai annoncé plus tôt, donc ces deux séries, Kamikaze Fin du Monde et Kamikaze Rock, qui correspondent à un moment d'écoute du punk. Il s'agira donc, dans un premier temps, de voir comment cet artiste autodidacte, un temps lié à l'école de Nice, donc c'est-à-dire Yves Klein, Armand, César, va, à partir de 1976, chercher à réinventer la pratique picturale en lien avec la figure du musicien punk, jusqu'aux conditions d'exposition en fait, qui seront indexées sur le concert. Malaval, et nous le verrons, témoigne d'une compréhension du punk comme un phénomène structurant à tous les niveaux, à la fois esthétique, le tableau, le vêtement et culturel. En 1976, dans le sillage de ses propres recherches d'une musicalisation de la peinture, alors voici la série à laquelle je me réfère, avant 1976, donc la série « Été pourri, peinture fraîche », Robert Malaval propose un ensemble de toiles et lors de laquelle donc il procède à une musicalisation de la pratique de la peinture. En 1976, Robert Malaval entame le cycle de toiles Kamikaze Fin du Monde et Kamikaze Rock. Ces deux séries sont en lien avec l'expérience d'une crise esthétique, motivée par l'impossibilité de créer du nouveau d'une part, et l'envie idéaliste de refuser la réalité telle qu'elle est. Dès 1976, donc je vous le disais, cette prise de conscience de l'artiste qui considère alors la préparation d'une exposition comme la sortie d'un disque, donnait lieu à la recherche de la restitution de la part musicale de la peinture. Si les toiles Kamikaze Fin du Monde et Kamikaze Rock, sur lesquelles je reviens, donc se baseront elles aussi sur la notion de rythme, dès 1971, Malaval évacue la notion de mimésis. Il réactive intuitivement le modèle que proposait le pionnier Kandinsky, c'est-à-dire d'un art autotélique, une conception musicalisée de la peinture. Alors comment cet élément est-il visible ? Eh bien, Malaval structure ces éléments en procédant par des retours plastiques. Il répète des signes. Et si l'on se réfère à la définition de Jean-Yves Bosseur, selon laquelle le rythme réside dans les retours périodiques d'analogie, dans la symétrie des lignes et des limites, on voit que la présence privilégiée de la rythmicité, donc dans Little Queenie par exemple, est ce qui va donner, dès 1972, à la peinture de Malaval, la possibilité de penser un rapport plastique à la musique. Mais si Kamikaze Fin du Monde accomplit donc le projet d'une musicalisation de la peinture de la même manière que l'artiste avait commencé à poser ce projet au début des années 70, Malaval procède différemment. Il inverse les présupposés de la métaphysique qui fondent le projet d'harmonie universelle qui sous-tend de longue date la relation entre peinture et musique, celle que Junot, Philippe Junot, décrit comme une réaction compensatoire à la démusicalisation du monde. Au sujet de Kamikaze Fin du Monde, entre en jeu, au contraire, une conception qui intègre la création, la destruction dans la création, donc qui intègre une force négative. Malaval explique, par exemple, à propos de Kamikaze, mon travail récent s'appelait Kamikaze Fin du Monde, parce que je trouve que quitte à en finir, autant finir en beauté. En Kamikaze, il n'y a rien de plus beau que la mort du Kamikaze japonais. À une époque qui célèbre la vie, l'artiste oppose donc un modèle, le kamikaze, et une musique, le punk, qui convergent vers une destruction du monde, sensible dans les titres, mais aussi la forme. Alors, par exemple, dans Radium, une toile de 1977, nous avons cette évocation de la destruction qui est liée à l'élément nucléaire. Ici, donc, la question de la destruction passe par une composition centrifuge. De la même manière, on peut considérer Secouer tache bleue, qui repose sur une composition dont le centre ordonne un chaos de gestes et de couleurs. Les deux sont peintes à partir de giclures et d'éclaboussures et jouent sur l'équivoque de l'image d'une déflagration, peut-être d'une bombe. Malaval, à cette époque, explique « La bombe volante, c'est une des plus belles choses qui existent ». Et cette désagrégation est aussi peut-être celle de la peinture. Malaval renoue avec une certaine tradition de la peinture avant-gardiste qui aura mis en avant le paradigme de sa propre fin. Et là, je pense à toutes les avant-gardes historiques qu'on a pu évoquer ici et là. Si pour Malaval, la hantise de la destruction témoigne de son sentiment du refus du monde, la rhétorique de la guerre sert aussi à répondre de façon très personnelle au problème de l'essoufflement de l'histoire, des formes en particulier, et cet essoufflement de l'histoire des formes va être questionné comme une possible fin de l'art. Le peintre structure en effet sa série de toiles ultimes à partir de mises en abîme de formes géométriques, à l'instar de carrés bleus, cadres or, tachés carmin, toiles qui témoignent d'un travail formaliste, qui révèle un réel plaisir dans le jeu d'agencement des formes, à partir d'un répertoire de signes établis. Comme le remarque Philippe Dagen en 1991, ces toiles s'inscrivent dans la recherche des pionniers de l'abstraction, tout en se mettant à distance par les couleurs. En rose, je cite Philippe Dagen, « En rose groseille, bleu électrique, noir et jaune doré, les compositions s'inspirent des classiques et du moderne et citent le carré noir inscrit dans un rectangle noir et l'emboîtage des formes façon mandala, Malevitch cosmique. » Fin de citation. Or, sous le signe d'une approche historiciste à peine voilée, les toiles de l'artiste traduisent non seulement un sentiment d'épuisement du monde, mais la possibilité même de le mettre en forme par le langage, devenu inapte à l'innovation et par voie de conséquence inutile. Je cite Malaval. Personnellement, je suis pessimiste. Je crois que tout est foutu. C'est déjà fini. Ce que nous vivons, ce sont les restes du festin. Mais le festin est fini depuis longtemps. Je crois vraiment qu'on assiste à la fin d'une chose, et c'est fabuleux. Et par ailleurs, on peut lire en 1980 qu'il explique l'art est mort. Donc sans autre forme de procès, on n'aurait pas le temps de se lancer dans le débat du postmodernisme. C'est évidemment à mettre en lien. Sur un plan plastique, les stratégies croisées du nihilisme et de l'historicisme donnent lieu à un système visuel non objectif, de signes abstraits, que l'artiste n'en investit pas moins à partir d'un symbolisme qui va dans le sens d'une célébration, et cela les paillettes le renforcent, du déclin. L'étoile d'après 76 se compose de deux typologies formelles. Les œuvres au fond constituées de monochromes noirs, comme celle à l'écran, sur lesquelles l'artiste floque des paillettes argentées pour faire apparaître le geste, donc comme dans Kamikaze Bunker, et celles qui intègrent le leitmotiv de la croix. Guignol's Band, 1977, Rouge, Blanc, Bleu, 1980, et La Tache Noire, 1977, appartiennent à la deuxième typologie. Au sujet de cette dernière et sa croix de Saint-André, comme un barrage, sur un fond composé de bandes verticales, le critique Jacques Lepage commente « Rien alors d'aussi désespéré que tache noire, une tête de Christ écrasée, éclatant en une croix noire et violette dans une apothéose de paillettes. » Guignol's Band, au milieu, donne à voir elle une croix double, une première blanche nacrée, de type orthodoxe, qui occupe le centre de la toile et que l'artiste vient raturer à l'aide d'une seconde, vert trayé de noir, développée en diagonale pour former une étoile bicolore à 8 branches. La fonction de la croix peut se voir d'abord comme un marqueur de la toile, mais aussi comme du temps, la peinture devenant ainsi la mise en forme d'un instant. Au sujet général de la création, l'artiste écrivait « C'est une affaire de piste, de rencontre, à l'indienne, bien regardée. » L'important, c'est quelquefois le parfum d'une présence, les bruits de l'extérieur, la lumière, etc., etc. Fin de citation. Dans la mesure où la croix peut prendre la forme d'un symbole nihiliste, cette forme de contenu par laquelle l'artiste identifie la peinture à un marquage physique et l'art à un balisage d'instant peut être réinterprétée dans le contexte punk. L'artiste encoderait sur le plan de la vision une certaine logique de la négation par des scénarios visuels qui mettent en scène la disparition de l'image. Tout se passe comme s'il barrait sa peinture, obstruait le regard pour une peinture qui se résiste et ne se donne pas, en autant de formes fracturées. De ce point de vue, si l'emploi des paillettes dans la peinture apparaît d'abord comme une manière très directe de régler le problème classique de la lumière, il permet aussi de symboliser l'idée de présence menacée et d'absence incertaine. Le langage matériel de la série punk, à base de paillettes et d'abstraction, prend ses sources en 1974, dans une production antérieure, Les Poussières d'étoiles. Donc, Les Poussières d'étoiles. Donc, un détour de ce côté permet de comprendre le rapport entre rock et punk chez Malaval. En 1974, le matériau paillette s'inscrivait alors, chez Malaval, dans un réseau de métaphorisations multiples, dont celle décisive d'une quête, d'une peinture musicale, d'une équivalence visuelle avec la musique électrique. Confronté à l'assèchement de sa propre pratique et au désintérêt qu'il ressemblait pour les arts plastiques alors, Malaval adopta les paillettes en 73, je cite, par lassitude du matériau. Et je cite encore, « C'était comme la guitare électrique par rapport à la guitare sèche. J'ai vu que la paillette multipliait, amplifiait le coup de pinceau. Comme le passage de la guitare classique rock avec ses effets de distorsion, la paillette augmente l'intensité. » Fin de citation. Outre la possibilité métaphorique d'électrifier la peinture, les immenses monochromes bleus et pailletés de la série Poussière d'étoiles et en particulier Je suis une étincelle établissait un lien entre art et musique qui porte encore à l'époque sur le rapport entre l'harmonie d'un monde ordonné et musicalisé. Malaval dit « la paillette c'est le make-up de la peinture » et il convoque intuitivement la racine grecque du mot « cosmos » qui est au cœur de l'esthétique de David Bowie. Le titre de la série Poussière d'étoiles d'ailleurs repose littéralement sur la traduction de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Alors on voit par exemple dans l'atelier de Malaval, rue du Pont-Louis-Philippe, que bon, au milieu des années 70, je pense qu'elle n'est pas datée, il avait déjà donc des posters avec David Bowie. En 1976, donc je reviens à mon sujet, la paillette se maintient comme l'un des aspects les plus décisifs dans la construction de son esthétique picturale punk, mais c'est surtout parce qu'elle permet une épiphanie du geste, geste par lequel Malaval s'identifie un peu plus aux musiciens. C'est dans des toiles à l'image de 2 mètres de long, en fait à l'image de Kamikaze Bunker, que l'artiste donne toute la mesure de sa gestualité. La toile porte la trace du bras, du geste du bras, dont des allers-retours noirs et blancs, qui laissent apparaître des surfaces où s'enroulent des boucles passées à grands gestes, et l'introduction finalement de cette gestualité renouvelée témoigne d'un engagement physique inédit. Entre les gestes du peintre, les outils qui marquent un phénomène de désesthétisation et son look, il écrit en 76 un texte à la troisième personne. Il dit « Il porte un blouson d'aviateur sur un polo de tissu, jeans et chaussures basses pointues de 2 couleurs. Ses yeux sont cachés par des lunettes de soleil. » Donc entre tous ces éléments, tout infléchit la peinture de Malaval vers une pratique du punk totalisatrice. Après 76 et le tournant punk de sa pratique, le projet de Malaval peut s'aborder suivant une perspective qui ne se limite donc plus à la synesthésie, c'est-à-dire le rapport entre musique et tableau, mais qui empiète sur l'homologie. Dans l'agencement pratique que propose Malaval, chaque partie révèle une cohérence indexée sur le désordre, la provocation, le bricolage et le nihilisme qui dénotent en creux la sémantique du punk. De cette façon, Malaval instruit une cohérence symbolique entre les valeurs et les formes. Il met en œuvre cette idée de style comme homologie que Dick Hebdige reprend à Paul Willis, pour qui les sous-cultures nourrissent l'espoir de refléter une totalité, mais une totalité qui serait sous le signe du chaos à tous les niveaux. Et je cite Paul Willis, « Le chaos se transformant dès lors en une totalité signifiante. » Alors, donc je voulais finir sur cette rétrospective de Malaval qui aura lieu en 1980, donc rétrospective qui s'appelle « Attention à la peinture ». C'est une rétrospective lors de laquelle l'artiste peint en public pendant 2 mois, donc de mai à juin 1980. Et à cette occasion, donc, il engage une rixe en fait à la fois métaphorique et réelle avec le tableau, une rixe aussi avec le public, puisqu'il relate un soir qu'il y avait le public qui l'a carrément agressé, à tel point qu'il a balancé son pinceau sur un mec qui était au balcon. Malheureusement, je l'ai raté, le pinceau a été intercepté. Et je finirai. Donc en 2005, Nicolas Bourriaud soulignait que la vie de Robert Malaval se singularisait par son épaisseur romanesque. Il est d'autant plus intéressant de prendre ce commentaire au pied de la lettre que traditionnellement, la notion de vie romanesque est sous-tendue par une dépendance du sens de la vie à la mort, donc vie racontée depuis l'enfance jusqu'à la mort, et la mort transformant, selon Malraux, l'existence en destin. Or, avec Malaval, la mort donnée par une balle de 22 longs rifles au son de Blank Generation dans la foulée de l'exposition « Attention à la peinture », donc le 8 ou 9 août 1980, sont autant d'éléments qui insistent de façon rétroactive sur le statut d'une vie d'autant plus punk. Autant d'éléments qui scellent, in fine, 2 aspirations inaccomplies dans la vie, celle d'une fusion entre la vie et l'art, et de 2 modèles esthétiques antagonistes, l'artiste dissident marginal et l'artiste organique. Or, Malaval le savait, et l'écrivait en 1974, « Vouloir tout saisir, c'est un vertige terrible ». Merci.